Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Architecte, urbaniste, Paul Virilio se défendait d'être philosophe. Il n'aura pourtant jamais cessé, jusqu'à sa disparition en 2018, de penser le monde qui l'entourait. De le penser, ou peut-être plutôt de nous en réfléchir les visions, les perceptions qui s'imposaient à lui à travers la trentaine d'essais qu'il aura signés depuis les années 70 et les articles des nombreuses revues auxquelles il aura collaboré, la revue Esprit notamment. En 1984, Paul Virilio publiait « Logistique de la perception » qui était présenté comme le premier volume d'un ensemble plus large ayant pour titre « Guerre et cinéma ». Un livre autour duquel il était invité à s'entretenir avec Claude Jean-Philippe, Caroline Champetier et Pierre Donadieu dans le cinéma des cinéastes. Présentant son livre comme une mise en situation de la relation existant entre la guerre et la représentation, Paul Virilio posait que la guerre était d'abord l'organisation d'un regard, la recherche de la domination visuelle, depuis la tour de guet jusqu'au satellite d'observation, en passant par la photo-interprétation au premier temps de l'aviation durant la Grande Guerre et l'utilisation de l'œil de la caméra à des fins militaires. Enfant de la guerre, pris sous les bombardements qui détruisirent largement la ville de Nantes, puis soldat durant la guerre d'Algérie, Paul Virilio énumérait là les indices, les concordances lui permettant d'avancer qu'au XXe siècle, la fonction du regard et celle de l'arme de guerre avaient fini par se confondre, ce qui pouvait peut-être justifier les mots de Kafka « Le cinéma, c'est mettre un uniforme à l'œil » et aussi ce que voulait dire Napoléon quand il affirmait « Commander, c'est parler aux yeux ». Le cinéma des cinéastes, Paul Virilio, à propos de son livre « Guerre et cinéma, logistique de la perception », diffusé le 1er avril 1984 sur France Culture.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Cette semaine, comme promis, notre entretien avec Paul Virilio à propos de son livre « Logistique de la perception », qui est le tome 1 d'un ensemble qui va s'intituler « Guerre et cinéma », et qui est publié aux éditions Cahiers du cinéma, édition de l'Étoile. Alors, Paul Virilio, merci de revenir au cinéma des cinéastes. Pour ce livre et pour un autre que j'ai dans ma serviette et que je n'ai pas encore terminé, donc ce qui implique que vous reviendrez, parce qu'on va limiter cette émission au livre qui est publié par les Cahiers du cinéma et qui est celui des deux qui se rapproche le plus directement du cinéma, encore que le second, d'après ce que j'ai vu, implique autre chose. Mais enfin, il s'agit de La Cité. Alors, oui ?
Oui, le titre du second ?
L'espace critique.
Et qui est publié
chez Christian Bourgois.
Voilà, c'est ça. Une question très, très, très simple, Paul Virilio. Quand on lit votre livre, on a le sentiment que tout part d'une vision des choses et que le livre lui-même ne fait qu'apporter des dizaines, des centaines même d'exemples partant de ce même foyer. Alors, est-ce que vous pourriez préciser l'idée ? C'est peut-être moins une idée qu'une vision.
Oui, sûrement. Sûrement, oui. De toute façon, il s'agit du premier tome, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ce premier tome, c'est une mise en situation. Et c'est une mise en situation de quelque chose d'évident, mais qui, curieusement, a été oublié ou censuré, je ne sais pas pourquoi. C'est la relation qui existe entre la guerre et la représentation. Toute guerre est d'abord un théâtre de représentation, même les guerres anciennes étaient l'organisation d'une représentation. Ça explique aussi bien les étendards que la disposition sur le terrain, que les parures des guerriers, etc. Et il est curieux que le cinéma apparaissant, d'abord la photographie avec la guerre de sécession, avec les premiers ballons et les premières prises de vue, le cinéma apparaissant, ça allait donner à la guerre une dimension nouvelle, une dimension cinématique. Et là, je me suis intéressé à ça parce que plusieurs phrases m'ont tourné dans la tête. Les exergues, pour moi, sont plus que des exergues, ce sont des germes, c'est germinatif. La première, c'était la phrase de Sun Tzu, le grand stratège chinois, qui dit « La force militaire est réglée sur sa relation au semblant ». Bon, oui. Ça, c'est une phrase fondamentale pour moi. Et la deuxième, c'est une phrase moins intéressante, mais aussi importante, de Kipling, qui dit « La première victime d'une guerre, c'est la vérité ». Et je crois que ces deux phrases montrent bien à quel point la guerre est d'abord l'organisation d'un regard. D'un regard pour le chef de guerre et pour l'ennemi, c'est d'abord la domination visuelle. Le fait d'occuper une colline, c'est le fait de prévoir, de voir à l'avance, de voir par en dessus. Ensuite, on a aussi bien la tour de guet, qui est d'une certaine façon une caméra de prise de vue. Caméra parce qu'on est plus haut, etc. Et puis ensuite, bien sûr, c'est le ballon. Et enfin, l'avion, lors de la guerre de 14. Et puis aujourd'hui, pour aller très vite, le satellite d'observation. Donc, on s'aperçoit que avec la guerre de 14, commence la guerre du cinéma. Ou le cinéma de la guerre. Les deux sont difficiles à dire. On ne peut pas concevoir la guerre de 14 sans la photo-interprétation aérienne, sans le fait que l'opérateur se trouve dans un avion.
Pourquoi ? D'ailleurs, Jean Renoir a contribué, c'est ce qui est drôle.
Exactement, et beaucoup d'autres grands cinéastes américains, Hawks oui. Particulièrement. Et là, je crois que c'est très important de voir que la carte est remplacée par le film. Et ça, c'est un événement fondamental. Bon, on nous a beaucoup parlé, la sémantique, la carte n'est pas le territoire, etc. Mais la carte est déjà dépassée en 14. Elle est remplacée par la photo-interprétation systématique du territoire. Pourquoi ? Parce que les capacités de la puissance ou de la force militaire de destruction des repères géographiques exigent des relevés, instantanés, qui sont ceux de la caméra de prise de vue, de la photographie aérienne. Alors, au même moment, je suis étonné parce que le grand cinéaste qui est Griffith, se retrouve pour les cœurs du monde dans les tranchées de 14. Il veut faire la guerre, mais il veut faire la guerre de sécession. Il veut encore faire une guerre où on est au ras du sol, à se battre, à la loyale, entre guillemets, avec à l'arme blanche, comme on dit. Et ça ne marche pas parce qu'on ne voit rien dans les tranchées de la Somme. On ne voit que de la boue et puis des lueurs de tir à l'horizon. Et au même moment, il y a des caméramans qui tournent dans des avions et qui font la guerre réelle et qui sont en avance de plusieurs générations sur le cinéma de Griffith, qui lui-même est un pionnier. Il y a donc deux cinémas. Un cinéma de la guerre civile, celle de Griffith ou celle même d'autres cinéastes de l'époque.
Celle de Naissance d'une Nation.
Celle de Naissance d'une Nation, celle des Cœurs du Monde, qui a été tournée pour les plans qui ont été tournés par un capitaine Kleinschmidt. Et puis le cinéma militaire, le cinéma de la photo-interprétation, avec tous ces caméramans, ces photographes qui photographient sans arrêt les combats pour pouvoir en donner une vision, réelle, entre guillemets, au chef de guerre. Puisque cette vision, c'est la nouvelle carte. Le film est devenu la nouvelle carte. Alors il faudra attendre très longtemps pour que cette vision aérianisée, comme dirait Molinacci, devienne le propre du cinéma, d'avant-garde. Il faudra attendre les années 50, peut-être. Je ne sais pas, vous le savez mieux que moi, peut-être.
Ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de moments où, des années plus tard, il y a un choc avec le cinéma expérimental. On peut penser à Brakhage et on peut penser à Michael Snow, par exemple, la région centrale, avec sa formidable machine de guerre, sa peau d'orange, etc. Mais qui viennent effectivement des années plus tard.
Il y a quelque chose qui m'a terriblement frappé dans votre livre. C'est une incidente. Vous parlez du Technicolor des années 40 aux États-Unis et de ce qu'on en disait. C'est vrai qu'il n'y avait pas une critique à l'époque qui ne disait « c'est un Technicolor agressif ». Et c'est vrai qu'il y a un côté peinture de guerre.
Ouais, absolument.
Mais ça, j'y avais jamais pensé dans le Technicolor des années qui commence à Robin des Bois, quoi, grosso modo, qui commence à Robin des Bois. Et qui va jusque dans les années 50, jusque dans la période qui correspond en réalité à la période de la guerre et de la, enfin, de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre. Et étrangement, la douceur des couleurs de l'Eastman Color, qui, d'une certaine façon, nous a laissé comme un regret prodigieux de cette période, puisqu'après tout, le Technicolor du fleuve, ou le Technicolor du carrosse d'or, ou le Technicolor de Chantons sous la pluie, nous est toujours apparu comme mythologique.
Du fauvisme.
Oui, c'est ça.
C'est
le fauvisme. Alors que l'Eastman Color de la fin des années 50 et du début des années 60 correspond en réalité à une période de paix. Enfin, donc, pour en revenir tout à fait au début de ce que vous venez de nous dire, et en même temps, pour en venir à votre livre, c'est que, compte tenu de votre vision des choses, il n'y a pas un cadavre dans votre livre. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas, les longues heures perdues dans les tranchées de la guerre de 14. Quand on parlait de la guerre jusqu'à présent, on parlait de la souffrance.
Oui.
Et vous êtes le premier à en parler.
Oui. Mais il y a une souffrance de la perception. Quand Kafka dit « Le cinéma, c'est mettre un uniforme à l'œil », il parle d'une souffrance. Cette phrase de Kafka est aussi fondamentale. Elle sera dans le second tome. Elle introduira le second tome.
Il y a la phrase d'Abel Gance magnifique que vous citez. Vous qui rentrez dans l'empire des images.
Dans l'enfer des images.
Perdez toute espérance.
Effectivement, la phrase de Kafka est capitale. Il n'y a pas qu'une souffrance du corps physique, du corps physiologique. Il y a une souffrance nerveuse, une souffrance, je dirais, optique. Bon, l'homme qui regarde au télémètre un paysage lointain, l'homme qui observe à la jumelle son avenir, c'est-à-dire l'ennemi qui est en face, et ça Apollinaire l'a dit très bien, en disant « je tire sur ce que je désire, l'avenir c'est l'horizon qui est devant moi », il y a là une sorte de souffrance. Alors je crois que la souffrance de la guerre, la souffrance musculaire de la guerre, la souffrance du sang et des larmes, elle a occulté la souffrance d'une perception uniformisée, d'une perception quadrillée, d'une perception séquentialisée, d'une perception mosaïquée, celle du découpage. Alors ce que l'on a dit sur le quadrillage du territoire, ce que j'ai dit moi-même dans l'insécurité du territoire, sur le caractère policier du territoire quadrillé par la gendarmerie, par la police, par un contrôle qui a permis l'État-nation, il faut bien le dire, moi je le retrouve curieusement dans le découpage de la vue, dans la logistique de la perception, dans le fait qu'à partir de 14, avec le cinématographe des armées, on va décomposer la vue. On va mettre un uniforme à l'œil. Et je crois qu'il y a là une souffrance qui n'est pas dissible, qui n'est pas descriptible de la même manière, et qui est pourtant. On ne comprendrait rien au drame de la télévision si on ne comprenait pas ça. La télévision est un drame. Moi, je la regarde assez souvent et je ressens une douleur. Même si je regarde des films qui m'intéressent, il y a là quelque chose qui s'impose à moi. Il y a un cinéma, comme disait Dominique Paigny, qui vient de devant. Et qui vient pas de derrière. Hein, si on prend la télévision par rapport au cinéma, le cinéma c'est quelque chose qui vous passe par-dessus la tête et puis qui va ricocher sur un mur en face. Or, la télévision, elle vous vient de devant, elle vous brûle les yeux. Et ça, c'est déjà la logistique de la perception, c'est déjà dans le cinéma des armées naissant.
Alors oui, alors ce que vous dites n'est pas dans le livre. C'est non, mais c'est très
bien
important.
Sûr,
c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est que on passe son temps quand on vous lit. D'ailleurs, c'est ce qui rend d'ailleurs votre lecture tellement intrigante d'une certaine façon, à se dire mais où veut-il en venir ? Est-ce que c'est une machine de guerre contre le progrès, contre la technologie, contre la vie moderne, ou est-ce que c'est simplement une analyse tellement éclatante que on se dit mais oui, c'est bien dans ce monde que je vis et
En étant modeste, je dirais, au sens étymologique, que c'est une apocalypse, c'est-à-dire une révélation. Je ne prétends pas théoriser le réel, je prétends révéler des parties du réel qui sont évidentes et pas décrites. C'est tout. C'est un travail de révélation.
Qui dure depuis des siècles.
Depuis longtemps. Et puis depuis longtemps dans tout ce que j'ai fait. Que ce soit les bunkers, que ce soit n'importe tout ce que j'ai fait, c'était ça et rien d'autre.
Bon, alors justement,
pour ça, je suis pas philosophe.
J'ai une question, Claude, qui est vraiment une question, vous allez peut-être rire, mais qui me paraît évidente à la fin de votre livre, c'est est-ce que vraiment vous pensez que la fonction de l'arme et de la vue sont confondus, quoi. Ils sont depuis toujours confondus.
Beaucoup plus maintenant qu'au début. Mais dès l'origine, la fonction de l'arme et de l'œil sont confondues dans la visée. Il est évident que tous ceux qui sont servis d'une arme savent que c'est une organisation du regard sur une ligne et que c'est déjà une géométrie de l'œil. Le tir, la balistique, même avec un arc, c'est une géométrie de l'œil. Donc, effectivement, mais ce n'était pas très grave dans la mesure où c'était la visée directe. la visée dans l'œil ton ou au bout du pouce pour le tireur à l'arc. Alors qu'à partir de l'artillerie, il a fallu des collimateurs sophistiqués, et puis à partir des missiles, il a fallu la vidéo. Donc, quelque part, la confusion de la fonction de l'œil et la fonction de l'arme existait dès l'origine, mais de façon, je dirais, très, très faible.
Je voudrais savoir deux choses, au début et à l'arrivée. Hein. Bon, alors, pour ce qui est du début... J'aimerais savoir comment vous arrivez à ça. Si je vous pose la question, quel est votre métier? On peut trouver urbaniste, philosophe, écrivain, essayiste, chercheur, etc. Mais moi, je voudrais... Parce qu'il y a une telle originalité dans votre démarche que j'aimerais savoir comment vous avez procédé et comment, au bout du compte, vous vous retrouvez de notre côté, enfin, dans notre domaine à nous, qui est le domaine de la représentation et du cinéma.
Alors d'abord, je n'ai pas de titre universitaire. Mon université, c'est la guerre. Je suis un homme qui a vécu la guerre de façon intense dans son enfance, puis dans son adolescence. En France, et puis en Algérie, et puis à travers tous les conflits qui nous ont, je dirais, endeuillés. Donc, d'une certaine façon, la guerre est mon université. Moi, j'ai appris le monde à travers la guerre, à travers les bombardements stratégiques sur Nantes, à travers les déportés, à travers la résistance, à travers etc. On va pas entrer dans les détails. Et la première chose que j'ai faite, c'était de la peinture. Donc, d'une certaine façon, la représentation m'a intéressé tout de suite.
De la peinture abstraite ou de la peinture...
La peinture abstraite, oui, la peinture abstraite. À l'époque, c'était la peinture abstraite, disons. Oui. Cette peinture n'avait pas un grand intérêt, mais quelque part, elle démontrait mon intérêt pour la représentation. Mais enfin, le commun dénominateur de tous mes travaux, c'est la guerre. Ensuite, c'est la ville. C'est-à-dire que pour moi, la ville est une énigme. La ville n'est pas simplement la cité avec un centre, une périphérie, des boulevards, etc. C'est une énigme de l'histoire. Et c'est peut-être même la seule énigme qui m'intéresse et qui m'importe. Et ville et guerre sont liées. Certains urbanistes croient que c'est le commerce qui a donné lieu à la ville. Et certains autres, minoritaires dont je suis, considèrent que c'est la guerre. Le rassemblement des hommes en un point s'est fait dans une perspective stratégique. Et cette perspective stratégique a donné, je dirais, son sens à l'énigme de la ville. Et mon travail d'urbaniste a été un travail sur cette énigme de la ville, sur cette énigme de la stratégie urbaine. Alors vous voyez, on trouve la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre d'Algérie, auquel, hélas, j'ai participé pendant 6 mois. Et puis on trouve la ville détruite, la ville de Nantes détruite avec 10 000 morts, et j'étais dessous. J'ai vu des choses abominables à l'origine. Alors, bon, les études, la philosophie, les disciplines, tout ça, pour moi, c'est beaucoup moins important que cet événement qui m'a formé.
Et alors, vous faites de l'architecture ?
J'enseigne l'architecture. J'en ai fait pendant 5 ans. J'ai construit pendant 5 ans avec un architecte qui s'appelle Claude Parron. Et depuis 68, je suis dans l'enseignement. Je suis professeur d'architecture et d'urbanisme à l'École spéciale d'architecture. Et j'ai commencé à publier en 75.
Oui, alors, et c'est là que, d'une manière absolument fulgurante, vous faites apparaître quelque chose...
Apparaître, c'est le mot.
Et puis alors, avec une idée force, qui est l'idée de la vitesse. Alors, est-ce que vous pourriez... Parce que vous nous en avez parlé la dernière fois, mais c'était il y a 2 ans, et il me semble qu'il voudrait rafraîchir la mémoire sur ce que vous appelez l'esthétique de la disparition et la vitesse.
Mon premier livre, donc, s'appelait « Bunker archéologie ». C'était une révélation de l'espace militaire de la Seconde Guerre mondiale, à travers les bunkers et à travers l'organisation de ce qu'on a appelé la Festung Europa. Le deuxième livre s'intitulait « L'insécurité du territoire ». Et rassemblait des textes que j'avais écrits dans la revue Esprit, à l'époque où je faisais partie du comité de direction avec Jean-Marie Domenac. Et puis, le troisième livre, qui est théorique, et qui est le premier livre théorique, s'appelle « Vitesse et politique ». Et le sous-titre, c'est « Essai de dromologie ». Dromologie, ça vient de dromos, course, donc la science de la course, pour montrer que la politique n'est pas simplement fondée sur la richesse, sur les moyens, mais aussi sur la face cachée de la richesse, qui est la vitesse. Et j'essayais de montrer comment, depuis les chevaliers antiques, depuis la société athénienne, romaine, jusqu'à la chevalerie, en passant par nos sociétés, les sociétés de la révolution du transport, la vitesse avait été l'organisateur des sociétés, et l'était de plus en plus. Alors, l'organisateur à travers le mouvement des corps, mais aussi à travers le mouvement des messages, c'est-à-dire la messagerie, l'information, les pigeons voyageurs, et puis aussi le mouvement des images. Et il va de soi que j'allais retrouver le cinéma dans la mise en mouvement des images. Et mon deuxième livre, Après vitesse et politique, c'était effectivement Esthétique de la disparition. Alors, esthétique de la disparition, pourquoi ce mot? Est-ce que c'était pour faire beau? Pas du tout. C'est que jusqu'à l'invention de la photo et du cinéma, il n'y a d'esthétique que de l'apparition. C'est-à-dire que les choses ne peuvent se constituer que dans une émergence et d'une persistance qui est celle du support. Que ce soit la toile peinte sur laquelle l'esquisse laisse apparaître petit à petit la dernière étape du tableau, que ce soit le marbre que l'on sculpte, il y a là une émergence, une apparition. Les choses n'existent que parce qu'il y a la persistance d'un support matériel. À partir de la photo, de l'instantané et bien sûr du cinéma, les choses ne persistent que parce qu'elles passent. Elles ne persistent que dans la persistance rétinienne. La séquence, le photogramme, c'est ça. C'est que ce n'est pas des belles photos, c'est une belle disparition. Le film ou la séquence est d'autant plus intéressant que l'organisation de la disparition des photos qui composent le photogramme est réussie. Il y a là donc un phénomène qui se passe dans le cinématographe, mais qui se passe aussi dans la voiture, qui se passe aussi dans l'automobilité, pas simplement dans le cinématographe, mais dans l'automobilité. C'est rien d'autre ce qui se passe dans le pare-brise que cela. La conduite automobile est aussi une organisation du regard. La voiture est une régie du paysage que l'on parcourt. Les glaces qui entourent le véhicule sont comme autant d'écrans qui font la régie du film du paysage du voyage.
Bien, alors voilà. Moi, ce qui m'avait terriblement frappé en vous écoutant et en lisant votre livre, c'est que, d'une manière tout à fait fulgurante, vous faisiez apparaître les deux axes de la pensée au XXe siècle, qui étaient d'un côté l'axe futuriste. Je ne parle pas du futurisme proprement dit, mais qui débouche sur, en Russie sur Vertov, mais aussi sur Staline, et en Allemagne sur les futuristes des années 20, mais sur directement, après tout, sur les cérémonies nazies, et en Italie, bien sûr, sur Mussolini. Et l'autre axe étant celui du dadaïsme et du surréalisme, pour lequel, semble-t-il, vous aviez une tendresse, ou en tout cas, et qui, lui, s'est avéré historiquement sans tâche, enfin, en tout
pacifique.
Cas, complètement pacifique. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup pensé à ça en lisant votre livre. Il semblerait que le futurisme que vous dénonciez soit encore en
augmentation, en accroissement.
Oui, enfin, en accélération.
En accélération, c'est comme de dire.
Oui, donc, et que le monde dans lequel on vit aujourd'hui va tellement loin, parce que votre dernier chapitre sur la guerre du Vietnam est tout à fait hallucinant, on a le sentiment, au bout du compte, que, après tout, on pourrait s'épargner le combat.
Et c'est presque ce qui se passe avec la dissuasion, ce qui s'est passé. Le combat, disons, international, les guerres nationales subsistent, hélas. On le voit en Irak, en Iran et ailleurs. Mais c'est sûr que la stratégie de dissuasion est une stratégie de la représentation. Quand on voit les discours, strictement les discours depuis 1950 et 80, depuis 30 ans, entre Russes et Américains, parlons pas des problèmes de la défense européenne, c'est un discours de pure représentation. Moi j'ai la bombe, moi aussi j'ai la bombe. Ah bon, on est bien avancé maintenant. Oui, mais j'ai une bombe qui va plus vite. On attend un peu, et ensuite, oui, mais moi j'ai un satellite Spoutnik. Il y a là un théâtre de la représentation qui est tout à fait manifeste. La dissuasion, c'est vraiment logistique de la perception.
C'est-à-dire qu'on pourrait faire le film, c'est-à-dire que je vois très très bien le film que vous pourriez faire, en montrant les champignons successifs.
La fin de Folamour, qui pour moi est une sorte de chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'en parle avec la chanson de Vérylyne, ces explosions qui explosent indéfiniment, avec cette femme qui chante « Nous nous reverrons un jour au soleil ». Au soleil, non pas d'Hiroshima, mais au soleil réel, le vrai. Alors moi, je crois qu'effectivement, la dissuasion a été, pendant un certain temps, mais on n'en est plus là, je crois que ce que l'on dit, c'est déjà du passé. La dissuasion a été l'utilisation maximum de l'information pour la non-guerre, la dissuasion étant la non-guerre, ce qui ne veut pas dire la paix. Les capacités d'information après-guerre, que ce soit la télévision, le développement de la télévision, que ce soit les capacités de couverture du territoire par les U-2, par les avions, on se souvient de Gary Power et de son aventure, par les appareils qui contrôlent sans arrêt le territoire ennemi, ont permis de supplanter la guerre par sa représentation. Bien sûr, il fallait qu'il y ait la puissance, c'est-à-dire l'arme nucléaire, mais il fallait qu'il y ait le semblant. La phrase de Sun Tse, la force militaire est réglée sur sa relation au semblant, la puissance militaire nucléaire est réglée sur sa relation au semblant, la possibilité de contrôle qu'ont les adversaires de prouver qu'ils sont armés et à tout moment aptes à déclencher une guerre nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est vraiment ça.
C'est un échange de films.
C'est un échange de films. Gary Powers étant un cinéaste parmi d'autres.
Et dans le, quand Claude évoque le fait que ce film que vous décrivez, on pourrait le voir, d'une certaine façon, on l'a vu aussi avec War Games.
Oui,
partiellement, beaucoup moins fort que dans Docteur Follamour, mais on voit bien effectivement comment cette simulation absolue d'une guerre pourrait être la vraie guerre. C'est-à-dire que y a, pour ces 50 personnes enfermées dans leur bunker de commandement, il n'y a pas de différence entre la fausse guerre et la vraie.
C'est une salle de cinéma.
Oui, tout à fait.
C'est la dernière salle de cinéma dans laquelle se trouve le décideur suprême. En attendant qu'il disparaisse lui aussi au profit d'un répondeur automatique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne au bout du fil.
Un ordinateur automatique. Oui.
Un ordinateur qui décide de la guerre.
Alors ça, il y a ça chez Lang. Vous savez, la voix qui jette des ordres.
Oui, bien sûr.
Et on arrache
bien
le rideau, il n'y a personne derrière.
Bien sûr.
Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous insistez très clairement, et c'est très passionnant, sur à quel point la guerre ne peut pas se passer du cinéma. Mais la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est est-ce que le cinéma peut se passer de la guerre?
La guerre, pour moi, elle est dans les moyens de la guerre. C'est-à-dire que pour moi, le véhicule est à l'origine une arme. Et les véhicules se sont popularisés. Bon, l'automobile, etc., l'avion, etc.
Je veux dire, le cinéma d'aujourd'hui aussi, pas seulement l'histoire.
Le cinéma d'aujourd'hui a besoin de véhicules, que ce soit le véhicule travelling, que ce soit les instruments, etc. Et en ce sens, les instruments techniques sont sortis de la guerre. L'arsenal a été la première entreprise industrielle. C'est dans la fabrique de mousqueterie que l'on a fabriqué des objets semblables, ce que l'on oublie de dire dans les analyses sur la révolution industrielle. C'est l'arsenal qui a permis de répéter, de faire du semblable. Pourquoi ? Parce qu'il fallait tirer des projectiles qui aient un calibre correspondant. Donc le cinéma a besoin des appareils, a besoin de la voiture, a besoin du véhicule travelling, a besoin de...
La Dolly était à l'origine un support à bras qui permettait de mettre les bombes dans les canons.
Et on se sert
encore de la Dolly tous les jours.
Si on prend la plateforme, la caméra SPACE, S-P-A-A-C-E, dont j'ai oublié le nom, des novateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une plateforme de tir automatique pour missiles, ils ont mis dessus une caméra de poursuite. C'est-à-dire que cette caméra permet d'attraper un individu, même s'il passe à la vitesse du son, on peut prendre son œil et le tenir. Bon, pourquoi ? Parce que cet appareil était un appareil de poursuite radar qui permettait de garder la cible jusqu'à ce qu'on ait abattu l'adversaire. Donc, en ce sens, si on pense que la guerre est dans les instruments de la guerre, beaucoup plus que dans la volonté de la guerre, la guerre et le cinéma sont couplés.
Oui, mais alors là, Paul Virilio a toujours... vous n'avez pas complètement répondu à la question de Pierre, puisque mais attention, parce qu'elle allait beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le genre film de guerre a été un genre qui a eu un succès et dont je vois bien d'ailleurs à quel point un certain nombre de spectateurs ont la nostalgie aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque fois que l'Amérique faisait une guerre, à commencer par celle de la Guerre de Sécession, le cinéma suivait. Le cinéma américain a raconté la guerre de Sécession tant et plus, il a raconté la guerre contre les Indiens, il a raconté la guerre de 14, il a raconté la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il a raconté la guerre... Il s'est arrêté au Vietnam. Est-ce que vous avez une explication?
Alors d'abord, je tiens à dire que dans mon livre, je ne parle pas beaucoup des films de guerre civils.
Et pourquoi?
C'est-à-dire faits. Parce que je trouve qu'ils sont complètement ratés la plupart du temps. J'aurais souhaité faire une projection de films de guerre pour montrer ça. J'ai fait projeter avec mon ami d'Arbony, Les Carabiniers de Godard, parce que ça me semblait vraiment un film de guerre qui était la parodie du film de guerre, et c'était le seul valable. La guerre n'est pas réaliste. Or, tous les films de guerre, même les meilleurs, je ne parle pas de Follamour, sont des films qui tentent de créer une réalité de la guerre. Or, la guerre n'est pas réaliste. La phrase de Kipling le prouve. La guerre est la destruction de la réalité, non seulement de la réalité des corps vivants qui deviennent des corps morts, mais aussi la réalité des représentations. Tout est truqué dans la guerre. Alors, que ce soit les films de Hawke, que ce soit... Je prends des bons films, je prends Attaque d'Aldrich, que j'aime bien.
Sergent York, non, justement, non. Moi, j'ai pensé à Sergent York, justement, devant la représentation.
Oui. Non, moi, je ne suis pas sensible aux films de guerre. Je les ai pratiquement tous vus. Tous ceux qu'on pouvait présenter à Paris. Je pense à Aventure en Birmanie, qui a servi à entraîner l'armée israélienne. Ce qui est intéressant. Et puis à d'autres. Néanmoins, j'ai essayé de montrer que le film de guerre était d'abord un film de guerre militaire. Et c'est celui-là qui m'a intéressé. C'est celui tourné par les militaires aux fins de faire la guerre, et non pas simplement ceux qui servent à la propagande intérieure. C'est évident qu'il y a, une retombée. Tous les films sur la guerre du Pacifique ont été rendus nécessaires par le caractère abstrait de la guerre du Pacifique. Quand on regarde une carte du monde avec Okinawa ou Tarawa, on les voit même pas, on voit même pas ces îles. Il fallait donc filmographier pour la société américaine, et aussi alliée, pour reprendre le vocable de l'époque, la guerre du Pacifique, sinon elle n'existait nulle part. Alors, effectivement, ces films étaient intéressants, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mais pour ceux qui, comme moi, étaient plongés dans la guerre en Europe, le cinéma de guerre n'avait aucun intérêt. D'ailleurs, personnellement, je pense qu'il n'y a eu aucun bon film de guerre sur l'Europe. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale, hein, je parle de ce que j'ai vu. Peut-être Nuit et brouillard. Oui. Un film de guerre.
Païsa, non,
Païsa, peut-être Païsa, j'y pensais.
J'ai pensé à vous à cause de Nantes, Muriel de Rennais.
Muriel de Rennais, oui.
C'est après la guerre.
C'est après la guerre, mais il n'y a eu aucun, même Clément, même La bataille du Rail, c'est pas un film de guerre.
Non, mais je peux vous répondre, Paul Virilio, en fonction de l'histoire, c'est-à-dire en fonction de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'en 1916, Pétain voit arriver les premiers opérateurs d'actualité de l'armée, parce que la guerre de 14 n'est pas filmée du tout. Jusqu'en 16, hein. Okay. Ça c'est une chose qu'on oublie souvent de dire. Pétain voit arriver les premiers opérateurs d'actualité, et il leur dit, il les accueille très très mal, il leur dit, messieurs, nous faisons la guerre, nous ne nous amusons pas.
Oui.
Ce qui veut dire le cinéma, c'est la mythologie.
Ouais.
La mythologie du cinéma, et donc là pour dire pourquoi nous combattons. Voilà. Nous combattons ces salles jaunes, etc. Donc, c'est pas du tout votre sujet.
Hein. Non, pas du tout.
C'est pas du tout votre sujet. Ça consiste à justifier les raisons pour lesquelles, soudain, Errol Flynn, dans Bataan, tient avec sa mitraillette, avec sa mitrailleuse, devant une espèce de flou. Moi, c'est une image qui m'a terriblement frappé quand j'étais petit. On voit Errol Flynn tout seul, il est le dernier à résister, et il tient une mitrailleuse, et devant lui sortent des fourrés de la jungle, des milliers de faces jaunes qui sont complètement abstrait, qui sont les Japonais. Bon, donc il s'agit là de mythologie. Bon, alors cette mythologie fonctionne jusqu'à la guerre de Corée. Il y a plusieurs films sur la guerre de Corée. Pourquoi nous combattons en Corée ?
Bien sûr.
Il n'y a aucun film en dehors des Bérets Verts de Wayne qui dit pourquoi nous combattons.
Oui.
Et les Bérets Verts, c'est une exception, donc ça ne peut pas du tout d'aucune façon être une règle.
Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu en direct. Bon, j'ai vu effectivement, quand j'étais jeune, beaucoup de films de guerre, puisque c'était mon monde. Et je m'en souviens de pas beaucoup, mais je me souviens d'une expérience qui m'a permis de vérifier l'illusion du cinéma par rapport à l'illusion de la guerre. Parce qu'il y a deux illusions.
Oui.
Elle est à la mythologie du cinéma, et puis à la mythologie de la guerre aussi.
Mais elles font le même travail,
en fait. Pendant de nombreux films de guerre, j'avais vu des gens qui traversaient des champs de mines. Et vous souvenez, et dans la salle, on avait peur qu'ils sautent. Vous vous souvenez de ça?
Absolument.
C'est-à-dire qu'ils regardaient à leurs pieds, etc. Or, il se trouve que j'ai fait la guerre d'Algérie. Je tiens à dire que je m'en vante pas. Il m'est arrivé, avec mon Alftrak, comme les routes étaient minées, de marcher devant l'Alftrak pour regarder si c'était miné. Et j'avais absolument pas le même sentiment. Je suis pas courageux, hein. C'est pas par courage. C'est que dans la réalité, des mines dans le sol, eh bien, ça fait pas du tout la même impression que les mines dans le sable de l'écran. On a peur à la guerre d'autres choses qui ne sont pas celles que le cinéma civil traduit. Et là, je l'ai vérifié, je me suis dit, mais voyons, cette situation au cinéma serait héroïque. Le bon sergent qui descend et qui marche devant son alfrac, mais c'est ridicule. Il n'y a pas besoin d'être courageux pour faire ça. Il suffit d'avoir l'œil. Or, quelque part, au cinéma, j'ai pas l'œil. J'ai l'œil du spectateur, j'ai l'œil qui vient de derrière, j'ai pas l'œil de l'acteur. Et tout est truqué. Et ça, c'est un exemple que j'ai vécu. Hein. Et par contre, la peur, la vraie peur, elle s'exprimait dans des situations tout à fait différentes que le cinéma ne restitue pas.
Par exemple,
la nuit.
L'attente.
La guerre de nuit et l'attente. Parce que la nuit et l'attente, ça va ensemble. Le fait que quelque chose va apparaître. Quelque chose qui peut être la surprise d'une embuscade ou autre chose. C'est immatériel. La peur de la guerre est immatérielle. Ce n'est pas la peur des explosifs, ce n'est pas la peur de prendre une balle dans le buffet. C'est la peur de ce qui n'est pas perçu. C'est le contraire du cinéma. On a peur de ce qu'on voit. On a peur de ce qu'on voit au cinéma, alors que dans la guerre, on a peur de ce qu'on voit pas.
Sauf chez quelques grands cinéastes, chez Hitchcock, on a aussi peur de ce qu'on voit.
Il y a un film qui est très bien dont je voudrais parler, c'est Sinaï Mission de Wiseman, qui est un film remarquable sur une mission américaine dans le Sinaï. J'aurais voulu qu'on puisse le reprojeter. Je l'ai vu à l'Olympique. C'est vraiment un film très intéressant sur la guerre, parce que justement, c'est cette attente avec ce doute sur qu'est-ce qui va arriver.
Frederick Wiseman, qui est le grand documentariste américain.
Non, mais en réalité, la mythologie qui a abandonné, qui semble-t-il a abandonné la guerre totale, la guerre de peuple à peuple, la guerre du Vietnam, etc., cette mythologie du cinéma continue à parler d'une guerre et qui est la guerre civile, puisqu'au fond, le film noir, c'est ce qui nous ramène à la ville.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les grands films, c'est en quatrième vitesse. Mais pour moi, en quatrième vitesse, c'est infiniment plus un film de guerre que Attaque du même Aldrich.
C'est-à-dire qu'on peut rendre compte que le cinéma peut rendre compte de la guerre civile, alors.
Oui, je crois, parce que là, il y a des personnages, il y a une présence physique des êtres, les matériels comptent moins. Hein, comme disait Malraux, la guerre civile ou la révolution, c'est un camion, des hommes et des fusils, il n'y a pas beaucoup de techniques là-dedans. Alors que depuis la guerre de 14, c'est la saturation du tir d'artillerie, c'est la saturation des bombardements sur les villes, c'est des choses qui dépassent l'homme et sa vision du monde. Enfin, c'est cosmique. Depuis 14, la guerre est devenue cosmique, pour ceux qui y participent.
La guerre civile, c'est la construction, c'est la ville.
Oui,
C'est
encore un combat d'homme à homme, même Beyrouth. Sauf quand il y a évidemment des bombardiers qui tirent dessus. Mais je veux dire, les gens qui se tirent de maison à maison à Beyrouth, d'ailleurs, ils s'amusent follement. C'est atroce, mais ils s'amusent follement. Alors que quand on les fait bombarder par des F-15 ou des F-16, ou par l'artillerie saturée, alors là, on rigole plus.
Moi, donc, je voudrais voir votre avis sur Coppola. Parce que s'il y a quelqu'un... Vous aimez pas. S'il y a quelqu'un en ce moment qui mythologise le cinéma et qui, est passé par la guerre avec son Apocalypse Now, c'est bien lui.
Bien aimé Coppola de c'est pas Cérémonie secrète, c'est l'autre.
Conversation
secrète, qui est un film remarquable. Tout à fait, qui va dans le sens de guerre et cinéma. Mm. Par contre, Apocalypse Now, pour moi, c'est parodique. C'est
l'incapacité de faire votre livre. C'est-à-dire qu'en fait, l'Apocalypse Now, c'est votre livre.
Ça. C'est vrai. C'est la révélation. La révélation.
Parce qu'on sent bien,
La révélation.
Mais on sent bien que Coppola a en tête quelque chose qui serait votre livre et qui ne peut pas prendre la forme d'un film immédiatement. Peut-être qu'il fallait que ça passe d'abord par un essai. Et que, en fait, votre livre pourrait s'intituler Apocalypse Now.
Absolument. Et c'est pour ça que je parle de révélation. Quand on me dit vous êtes philosophe, urbaniste, etc., théoricien, etc., j'ai envie de dire ce qu'un ami me disait, t'es pas un essayiste, t'es un essayeur. Eh ben oui, d'une certaine façon. Je suis un essayeur ou un révélateur, enfin bon, quelque part, c'est une fonction. Je l'ai pas fait exprès. Je crois que j'ai été témoin de la guerre d'une façon, alors, ontologique, dans mon enfance, puisque j'étais tout jeune. Et je la sens. Je la débusque comme un chasseur qui chasse tel type d'animal le sent. Moi, je la sens, la guerre. Je la sens dans les objets, dans les relations.
On pourrait penser... la question que normalement on se pose, c'est pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi la guerre ? Or, étrangement, vous ne la posez pas. Vous n'êtes pas un polémologue, parce que ça, c'est aussi une discipline.
Non, parce que les polémologues... je participe à des centres d'études stratégiques, des mouvements de recherche pour la paix, c'est évident, mais... Napoléon disait, on ne peut pas écrire sur la guerre. Et on peut la faire ou la dénoncer. La faire, lui, il l'a faite, la dénoncer ou la révéler, c'est moi. Je ne me prends pas pour Napoléon, mais c'est pas ce que je veux dire. Et il avait tout à fait raison. Klaus Wittz, je suis désolé, c'est un grand écrivain, c'est un grand livre, mais que de temps perdu. Que de temps perdu à référer à Klaus Wittz aujourd'hui, par exemple. Quand je cite Sun Tzu, Sun Tzu n'est pas un polémologue. Je dirais que c'est un poète de la guerre. Il a compris que la guerre était un phénomène de représentation d'abord. Que ce n'était pas un problème de mouvement de troupes vers la gauche, l'aile droite, le machin, etc.
Glucksmann n'est pas dans vos...
Non.
Je suis contente de vous. Non.
Enfin, le poème d'Apollinaire le dit très nettement. Le poème de le jour où on affiche la mobilisation le dit très nettement, il s'agit de partir à la guerre.
La petite auto jaune.
Oui, la petite auto, etc.
On
est entré dans une époque nouvelle, c'est-à-dire on entre dans un... Il a l'absolue conscience qu'on entre dans un cinéma et que, mon Dieu, que la guerre est jolie avec...
D'ailleurs, la phrase que je cite, « Il pleut, mon âme, il pleut, mais il pleut des yeux morts. » Les projectiles sont la mort du regard du tireur. C'est un œil qui se perd. C'est extraordinaire. C'est, philosophiquement, à mon avis, c'est pas un poème, ça. C'est plus qu'un poème.
Oui, mais alors, vous n'expliquez pas ce qui se passe en nous quand nous partons à la guerre.
Je peux vous parler de ce qui s'est passé quand je suis parti. Je suis parti à reculons. Je suis parti, lâchement. parce que j'aurais pas dû partir. C'est la guerre d'Algérie. Oui. J'aurais pas dû partir. Et je crois que tous ceux qui partent à la guerre, à part quelques foudres de guerre, partent à reculons. Ou alors ils sont totalement inconscients, et dans ce cas ils sont innocents, comme les carabiniers de Godard. Ceux qui sont pas totalement inconscients, et je pense que j'étais pas totalement inconscient de la guerre d'Algérie, partent à reculons, partent lâchement, parce que, bon, ils peuvent pas faire autrement. Ils sont piégés. Bon, moi j'étais marié, j'avais une petite fille qui venait de naître. Bon, on déserte pas avec femme et enfant. À moins d'être très riche, on va en Suisse, c'est facile.
Mais non, c'était mon pas père se trouve exactement dans la même situation. Ouais. Et ça, ce qui doit être terrible, c'est
On répond par la réalité.
Quand on parle du regard, vous avez dû passer votre temps à regarder ce qui pourrait venir, ce qui va vous advenir, mais il y a l'autre œil. Il y a celui qui vous regarde, vous, et que vous sentez quand vous partez comme ça à la guerre à reculons, comme vous dites. Moi, il y a une question que je voulais
poser. Et puis, avec une énorme curiosité. Je dois dire que ce qu'il faut dire, c'est la phrase de Léon Blois s'applique à tout homme qui part à la guerre. Quand on dit, quand Léon Blois est mort, sa phrase, c'est « Que ressentez-vous ? Une énorme curiosité devant la mort. » Je veux dire que tout soldat, enfin, moi, j'ai ressenti aussi ça. Ce qui fait le caractère ambigu du départ à la guerre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'était la réponse que j'attendais.
Évident.
C'était parce qu'en fait, c'est l'énorme curiosité aussi, celle d'Apollinaire.
Bien sûr.
Et celle de. Bon, c'est celle de Peggy, enfin.
Bien sûr.
Et les Béroutins dont vous parlez, qui s'amusent beaucoup quand ils se tirent dessus.
Oui, et puis qui finissent par en mourir. Par mourir même sans être mort. Parce que la guerre vous tue sans vous en ôter la vie.
Oui, c'est ce qui est.
Bon, alors.
Enfin, je voudrais quand même faire, pour qu'on ne se trompe pas, quand on me dit. Vous êtes antimilitariste, je réponds non, je suis pire. C'est-à-dire que je ne suis pas opposé aux gens qui ont une casquette et un uniforme. Ce sont des hommes comme moi, d'ailleurs, je l'ai eu, l'uniforme, la casquette. Mais ce qui se cache derrière ça.
Oui, vous avez dit tout à l'heure, ça m'a frappé parce que ça rejoint ma question. Vous sentez la guerre dans le regard.
Absolument.
Alors moi, quand je lis votre livre, j'ai l'impression que le regard, que la vue, c'est une fonction d'attaque fondamentale.
Ah oui.
Et bon. J'ai essayé de réfléchir sur moi-même et un petit peu sur les animaux. C'est surtout, au départ, une fonction de défense fondamentale, le regard. Alors, est-ce qu'il y a une évolution là-dedans ? Est-ce que d'une fonction de défense, on en est venu à une fonction d'attaque ? Est-ce que le regard, maintenant, quadrillé qu'on a sur les clichés, les codes, vous savez que tout est segmentarisé, la façon dont une femme s'habille, la façon dont un homme marche, est-ce que tout ça va dans le sens d'une accélération de la fonction d'attaque du regard contre une fonction de simple défense du regard.
Oui, je crois. Je crois qu'on est entré dans le monde de l'obscène. Mais obscène, au sens étymologique, mauvais augure. On oublie souvent que obscène a aussi comme sens mauvais augure. Et ça, sur ce plan-là, il est vrai que l'exposition du monde à la photo, au cinéma, à la télévision, au regard mécanique, disons, ou électronique, est une obscénité généralisée. Mais par là même, c'est dangereux, c'est profondément dangereux. Donc moi, je crois qu'effectivement, le monde est en danger à travers les regards technologiques. D'ailleurs, j'en parle dans le deuxième livre, L'espace critique, c'est un peu le sujet.
Mais c'est notre regard qui devient aussi technologique.
Oui, mais notre regard nous a été retiré.
Oui.
On nous a dépossédé de notre regard. Quand des choses viennent à nous dans l'écran de télévision, c'est pas notre regard, c'est quelque chose qui s'impose à nous. On est surexposé à l'image, alors que nous exposions le monde à notre regard. Quand on regarde en prise directe un objet qui passe, on l'expose. Quand cet objet se précipite sur nos yeux, c'est l'inversion. Du processus. Vous êtes la cible. Vous n'êtes plus le projecteur, vous êtes la cible. Et je crois qu'avec le cinéma d'abord, avec la télévision ensuite, la vidéo, etc., on a assisté à ce renversement. Ce renversement qui est effectivement de plus en plus offensif, offensant, obscène. La pornographie, elle est générale. Elle n'est pas seulement dans le fait de montrer des zizi ou je ne sais quoi, ça n'a aucun intérêt. C'est tout le monde qui est devenu pornographique ou porno-cinématographique, je ne sais pas. D'ailleurs, les derniers films pornographiques, et on en a vu quelques-uns, ont été jusqu'à la mise à mort de la femme. Mmh. On ne le dit pas, ça. Oui, il faudrait quelque part se souvenir de ça. Mmh. Quand on dénonce, ce qui est mon cas, la pornographie ou l'obscénité, c'est dans ce sens. C'est que ça va jusque-là. On ne peut pas s'arrêter en chemin quand on commence à ouvrir les yeux sur les yeux de la caméra sur certains spectacles. On va jusqu'à la mise à mort. Mmh.
C'est une façon ce que disait Godard sur les camps de concentration. C'est que la seule véritable façon de montrer l'horreur, c'est de montrer la comptabilité de l'horreur et non pas de montrer les corps.
Absolument. Hein.
C'est pour ça, donc, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est à quel point votre démarche est originale, Paul Virilio. C'est-à-dire que... De la même façon... Non, mais bien sûr, si vous le faisiez, ce serait abominable, mais... Bon, alors, d'un côté, vous ne posez pas la question qu'on pose généralement, pourquoi la guerre? Et de l'autre, vous ne vous posez pas la question, comment arrêter ça? Comment arrêter cette accélération de l'histoire qui risque de nous entraîner, si on vous suit bien, à un monde dans lequel on ne serait plus que spectateur de soi-même à travers des écrans vidéo multipliés, et comme si on était déjà entré dans la machine dont on parle dans le film Tron, et comme si on était déjà des personnages à l'intérieur d'un
montage cinématographique.
Oui, c'est ça, ou d'une machine électronique, ou d'un jeu électronique.
Un jeu électronique, oui.
Vous ne vous posez pas la question d'arrêter le processus?
Mais si, personnellement, je participe, mais je ne veux pas en parler. Je n'ai pas à écrire là-dessus. Peut-être d'autres le font, qui sont plus connus. Je n'ai pas envie de parler des manifestations auxquelles je participe, des jeûnes que j'ai faits avec d'autres pour la paix, dans des endroits très significatifs, comme Taverny, par exemple. Je n'en parle pas dans mes livres, parce que, je n'ai pas à parler de ça. Ça, c'est mes actes, c'est pas mes... Je n'ai pas à théoriser ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Je n'ai pas la solution de la paix. Même si je veux être un homme pacifique, non pas pacifiste, ça n'a aucun sens, et je crois que je le suis, ou un artisan de paix, comme on dit dans les Écritures, je ne suis pas un théoricien de la paix, je ne suis pas quelqu'un qui a la solution. Je n'ai aucune solution.
Alors, quelle est
votre... Je n'ai que des questions, mais des questions qui ne se posent pas. Et j'essaie de les poser, c'est tout.
Bon, alors, Paul Virilio, il se trouve qu'en vous écoutant, on vous admire de dire ça, mais en même temps, on ne peut pas ne pas penser à l'inverse, c'est-à-dire on ne peut pas penser à tous les intellectuels qui passent leur temps à se faire filmer, à des milliers de défilés demandant la paix, la liberté d'un tel, l'arrêt des combats ici, etc. etc. Il semblerait que participer à un de ces défilés, à vous entendre, ou à une de ces pétitions...
Ça doit être anonyme.
D'une part anonyme, mais en même temps, il semblerait qu'en même temps, ce soit suspect d'être... Parce qu'à partir du moment où les médias s'en emparent, à vous écouter, il semblerait qu'on entre à nouveau dans le cinéma.
Les vraies manifestations pour la paix sont des manifestations de masse. C'est-à-dire des manifestations où il y a, où les gens sont là en conscience. Ils ne sont pas là pour faire masse, ils sont là en conscience, et il se trouve que cette conscience est multiple. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a Yves Montand, Glucksmann, Marek Alter ou je ne sais qui dans une manifestation qu'elle est significative. C'est quand il y a 200 000, 300 000, 500 000, non pas moutons de Panurge, mais individus qui sont venus là en conscience. Individus inconnus, anonymes, mais qui sont venus là en conscience et en vérité. On n'a pas besoin d'acteurs de la paix, d'acteurs manifestes. Il n'y en a pas eu beaucoup, à part Gandhi peut-être, il n'y en a pas eu beaucoup. On n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin qu'il y ait de plus en plus de conscience que la guerre est impossible, en particulier la guerre nucléaire, et qu'elle est un délire d'interprétation de la puissance technique et scientifique. Mais que Virilio dise ça, que Yves Montand, que Glucksmann, que d'autres disent ça, n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est que de plus en plus d'anonymes le disent, le manifestent, soit par des manifestations, soit par leur vie pratique, c'est-à-dire dans la relation à autrui, dans le bulletin de vote, dans je ne sais quoi. C'est ça qui compte. Et à moins de se prendre pour un théoricien de la paix et de la guerre et dire « j'ai la solution, je vais vous la montrer », ça n'a pas de sens.
Bon, alors, pour nous approchons là de la fin de cette émission, et bien entendu, nous aurions passé encore plusieurs heures avec vous à parler de ces choses. En poursuivant, tout de même, et ce serait le seul reproche, la seule critique que je vous opposerai éventuellement, c'est que votre livre est très court, il va très vite. On a l'impression qu'il y a une sorte de mimétisme entre vous et votre sujet, c'est-à-dire que la vitesse vous occupe à un point tel que votre livre aussi devient rapide et qu'on parcourt l'histoire de l'humanité à travers les siècles comme une espèce de chevauchée tout à fait fantastique, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il y a un autre temps, qui est le temps quotidien, où alors les jours se suivent, se ressemblent...
La littérature qui sait traduire la lenteur. Je ne suis pas un littéraire.
Ah bon.
Pour écrire lentement, il faut être un homme de plume. Il faut être Julien Gracq, il faut être quelqu'un qui a une plume extraordinaire et qui sait parler de la guerre. Je pense au Balcon en forêt, qui pour moi est un livre de guerre extraordinaire de Julien Gracq. Bon, pour parler lentement, il faut être un grand homme de lettres. Moi pas, je sais pas écrire. J'écris par accident, comme je l'ai dit. J'écris par tension. Ceci dit, ce livre est rapide parce qu'il introduit une situation. Il y en aura un autre qui sera peut-être plus épais, peut-être qu'il y en aura deux. Donc considérons que c'est un premier volet, c'est une introduction.
Non mais généralement, vos livres sont courts.
Ah, oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi un problème. Je pense que j'ai été formé par les articles. J'ai fait des articles pendant 15 ans, 20 ans. Et bon, moi, j'aime mieux la nouvelle au roman et j'aime mieux l'article que le livre. Donc, un livre de 150 pages, pour moi, c'est déjà très long. Si je prends le livre qui, pour moi, est le meilleur livre de guerre, les 13 articles sur l'art de la guerre de Sun Tzu, ça fait 120 pages avec des très grands interlignes. Et c'est, pour moi, le plus grand livre sur la guerre de la guerre de Clausewitz. C'est rien à côté de Sun Tzu.
Je voudrais savoir si vous y avez quelque chose, vous, à une question qui ne vous a pas été posée et le point sur lequel vous voudriez insister personnellement.
Les images. Vous ne m'avez parlé des images.
J'allais dire que sur 150 pages, il y avait quand même 50 pages de photos dans ce livre. C'est quand même une chose extrêmement importante. Absolument. Et ça contribue justement à la rapidité. Parce qu'une photo, ça fait comprendre des choses que vous n'avez sans doute pas besoin de décrire plus longuement. Et on trouve effectivement une sorte d'histoire, de relation de la guerre et du cinéma à travers ces 50 photos
c'est
du
vrai,
livre.
C'est vrai. Et si on avait eu plus de moyens, il y en aurait eu 200, des photos.
Bon, merci Paul Virilio. Alors, je pense qu'il va falloir faire une autre émission avec vous sur un autre thème qui s'impose de toute évidence et qui est le rapport de la ville et du cinéma en fonction de votre second livre. Alors, je rappelle qu'il s'agissait aujourd'hui d'un livre qui s'intitule « Logistique de la perception ». De Paul Virilio, naturellement, et qui s'inscrit dans un ensemble « Guerre et cinéma » et qui est publié au Cahier du cinéma, édition de l'Étoile.
Vous venez d'entendre Paul Virilio à propos de son livre « Guerre et cinéma, logistique de la perception » au micro de Claude Jean-Philippe dans « Le cinéma des cinéastes » le 1er avril 1984 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.